Amen. Dieu est tellement bon. Je ne sais pas si vous avez aussi ressenti la douceur de sa présence. Vraiment, je sentais vraiment que ce n'était pas juste une image que disait Shelley, mais je sentais vraiment qu'il était profondément présent, vraiment là. Et Dieu veut vraiment nous toucher, nous parler encore personnellement à chacun. Et je me réjouis vraiment de poursuivre ce matin, mais je suis tellement déjà touché par la présence de Dieu ce matin que j'étais vraiment comme ému de sentir que Jésus était juste là devant. Il est devant toi, devant moi, devant chacun d'entre nous. Et c'est juste un honneur qu'il nous fait d'être là. Imaginez, c'est Jésus quand même. Et ce matin, on veut se pencher ensemble sur comment est Dieu, de voir comment il agit. Ça va nous permettre aussi de saisir pleinement comment il désire qu'on puisse nous-mêmes aussi agir aujourd'hui. Et Dieu nous a créés à son image. Du coup, en regardant à Dieu, de comment il fait, on voit aussi comment il a prévu que nous-mêmes on soit et de comment ce qu'il a prévu aussi qu'on agisse à son image, c'est-à-dire comme lui. Et ça marche dans l'autre sens aussi. S'il nous a créés à son image, ça veut dire qu'en regardant l'être humain en général, ça nous donne aussi une petite idée de comment est Dieu, toute proportion gardée évidemment. Mais on est des êtres humains, on voit, nous voyons, nous entendons, nous bougeons, nous rions, enfin j'espère. Mais Dieu aussi, il rit, Dieu il pleure, Dieu il bouge, Dieu il marche. Et comme je le disais il y a un mois quand je prêchais sur la vision de l'Église en citant ce passage d'Ésaïe 42, l'Éternel sort comme un héros, il excite son zèle comme un homme de guerre, il lance la clameur, il jette des cris, il triomphe de ses ennemis. Donc Dieu n'est pas impassible et muet sur son trône, où tout à coup, parce qu'une prière l'émeut, il tourne un peu la tête, mais comme vous et moi, créés à son image, Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle, et tout le reste qui bouge, qui agit, etc. Il est vraiment vivant. Et vous savez qu'on estime généralement que la plupart des adultes parlent en moyenne entre 16 000 et 20 000 mots par jour. En gros, hein, alors j'ai trouvé ce chiffre sur le net, il y a sûrement des personnes qui parlent bien moins que ça, et puis certains bien plus que ça. Alors c'est pas exprès que je te regardais, non. Par contre, on n'est pas à quelques milliers près. Mais si l'être humain parle des milliers de mots, pour dire ça comme ça, par jour, alors pourquoi est-ce que nous, qui sommes créés à l'image et selon le modèle de Dieu, notre Dieu, il parlerait-il pas non plus abondamment ? S'il nous a créés à son image, puis qu'on parle pas mal, ben lui, il parle aussi. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse voir à quel point Dieu est un Dieu qui parle. Il parle pour communiquer, mais il parle aussi pour agir. Du coup, ça va nous montrer aussi pour nous-mêmes comment être, que dire, mais aussi être à son image et comment agir. Et dès le début de la Bible, on voit comment Dieu est et aussi comment il fait bouger les choses, comment déjà il a créé la terre. Ben, il a parlé. Genèse nous dit, 1-3, je ne vais pas faire long là-dessus, mais il est mis, Dieu dit qu'il est la lumière et il y eut la lumière. Et on le voit tout le long de la création, du récit, les différents éléments. Quand il crée l'être humain, de nouveau, il dit, c'est marqué, il dit, créons l'homme à notre image. Il dit et les choses se passent. Mais surtout, dès que l'être humain est créé, la première chose qu'il fait avec l'être humain, il lui parle. Il est mis dans Genèse 1:28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, etc., remplissez la terre. Et on voit ensuite dans Genèse 2 que Dieu continue à parler à l'être humain. Il lui dit qu'il va lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Il lui parle aussi de tout ce qu'il peut faire, profiter de monts et merveilles, de ce jardin, des milliers d'arbres auxquels il peut manger, sauf un. Dieu a créé l'être humain qui lui ressemble. Et c'est juste normal pour Dieu que l'être humain et lui se parlent. Dieu est l'homme. C'est ça qu'il a toujours voulu. Et quand on voit que Dieu a créé la terre par sa parole, et que la première chose qu'il fait quand l'être humain est créé, c'est qu'il lui parle, on voit l'importance de la parole et que Dieu parle. D'ailleurs, je trouve intéressant que lorsque l'ennemi vient pour essayer, et il a réussi à faire chuter l'être humain et de l'éloigner de Dieu, c'est exactement ça qu'il va attaquer. Il va attaquer ça. Directement, il va dire, est-ce que Dieu a réellement dit ? Est-ce qu'il a vraiment dit ? Et effectivement, comme on le sait, il est venu semer le doute, mais il le fait en attaquant de front le fait que Dieu parle et sur ce que Dieu a dit. Et l'ennemi, il a remis en question la puissance de Dieu. Alors qu'il était présent comme un serpent, il n'est pas venu pour mordre physiquement avec son venin ou je ne sais pas, l'être humain, ou bien l'attaquer d'une autre façon encore. Il attaque le fait que Dieu a parlé et sur ce qu'il a dit. Et c'est intéressant. Et comme je suis convaincu que Dieu désire toujours autant parler, je reste convaincu que l'ennemi aussi, il désire agir et faire en sorte de remettre en doute le fait que Dieu parle, de ce qu'il nous dit, et surtout d'empêcher qu'on l'entende. D'empêcher qu'on l'entende. Retiens bien ça ce matin, la première chose que l'ennemi va essayer de faire dans ta vie, c'est que tu n'entendes pas Dieu, c'est que tu ne l'entendes pas. Que ce soit parce que tu ne prends pas le temps de l'écouter ou que ce soit étouffé avec mille et une autres infos, par exemple, mais que si tu arrives à l'entendre, il va essayer de remettre en doute que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Et puis, si tu penses que c'est Dieu qui a parlé, qu'est-ce qu'il va encore faire en dernier cours? C'est déformer le propos exact de Dieu comme pour désamorcer la puissance de ce que Dieu t'a dit. Et c'est la première chose que l'ennemi a fait pour l'être humain et il continue de le faire toujours aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Dieu, comme à son habitude et sa nature, il vient parler à l'être humain. C'est comme ça qu'il est. Et il est dit dans Genèse 3, « Quand ils entendirent la voix de Dieu, que Dieu était en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Et qu'est-ce que c'est? C'est que l'effet de la chute, ça a été quoi? C'était de fuir la voix de Dieu, de ne pas écouter, de ne pas entendre et de se cacher. Plutôt que de dialoguer et d'écouter Dieu comme avant, ils sont partis. Et je pense que la stratégie de l'ennemi est toujours la même aujourd'hui, c'est semer le doute, mais surtout de nous couper de cette relation avec Dieu. Et pas juste d'une relation aux yeux dans les yeux, mais une relation où Dieu parle et où on l'entend. Et là, j'ai mis le petit hashtag, l'ennemi, il ne change pas une équipe qui perd. Il continue, et ça je le dis pour ceux, il y en a pas mal qui sont en vacances aujourd'hui, qui sont en train d'écouter ce message, peut-être en différé ce soir ou demain, avec un cocktail dans une noix de coco, je leur dis bonjour. Je me demandais qui serait là ce matin, tellement il y en a qui sont en vacances, mais on leur dit bonjour et que Dieu vous parle par ça. Mais il y a une telle puissance dans la parole quand on voit que la création, que la terre a été créée par la parole. Il y a une telle puissance dans le fait de parler qu'on comprend bien pourquoi c'est ça que l'ennemi attaque directement. Et lorsque Dieu parle, ce n'est pas juste du son. On l'a vu avec la création, ça libère l'action de Dieu et la puissance de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans Ésaïe 55, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » D'ailleurs, le mot « bouche », « p » en hébreu, peut aussi signifier l'embouchure, comme l'embouchure d'un fleuve. Et c'est comme une rivière, la parole de Dieu qui sort, la parole de Dieu qui sort de sa bouche. C'est pas juste un mot, puis ça s'arrête, point. C'est comme une rivière et ça continue de couler, ça continue de faire son effet. Ça ne s'arrête pas, ça arrose, ça irrigue, ça donne la vie, ça donne à boire. Ce n'est pas juste un mot et c'est terminé. Et il y a un impact dans les paroles qui continuent comme d'agir. D'ailleurs, des fois, dans l'effet inverse, des fois dans des entretiens, on prie des fois avec les gens comme pour couper des mauvaises paroles qui résonnent encore autour d'eux, pour couper leur effet négatif. À combien plus forte raison, il y a un effet positif de la parole de bénédiction de Dieu qui continue d'agir. Elle n'est pas terminée, elle coule comme de sa bouche. Et gardons vraiment ça à l'esprit de ce message, que ce n'est pas juste fun de découvrir que Dieu parle. Ce n'est pas non plus pour les gens un petit peu plus spies, qui ont un petit peu envie d'aller plus loin que les dons spirituels ou la prophétie, ou les privilégiés du coup qu'on va un peu admirer parce qu'ils entendent Dieu. Non, entendre Dieu, c'est fondamental pour que Dieu agisse. Et c'est fondamental pour notre vie d'entendre Dieu nous parler. D'ailleurs, pour faire une mini-parenthèse assez terrible qui corrobore mon propos, c'est l'expérience de l'empereur Frédéric II, qui était quelqu'un de très érudit. Il parlait six langues, dont le latin, l'allemand, le grec, l'arabe et d'autres. Et en plus, c'était un monarque qui s'intéressait de près à l'éducation et aux arts. Et il a fait une expérience terrifiante en voulant découvrir quelle était la vraie première langue de l'humanité. Et puis pour ça, il s'est dit que pour découvrir la langue originelle, ce souverain, il aurait isolé six nourrissons et interdit qu'on leur parle pour voir finalement quelle langue allait sortir sans qu'on leur inculque une langue, pour voir quelle langue ils allaient parler. Et ce qui est terrible, c'est qu'aucun n'a survécu. C'est horrible et terrifiant, mais ça montre l'importance de la parole, notamment des parents pour que l'enfant vive, se développe, grandisse. Et je suis convaincu, et c'est la raison de mon message ce matin, c'est que pour que nous puissions nous-mêmes être bien vivants spirituellement qu'on se développe et qu'on continue de grandir, il faut qu'on entende Dieu et qu'on l'entende abondamment. Il faut qu'on entende Dieu nous parler. L'entendre directement nous parler pour qu'on puisse se développer, grandir, devenir mature. Et entendre Dieu, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas un degré juste pour les plus matures. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est une nécessité justement. Et Dieu a prévu de parler et de parler à chacun personnellement. Ce n'est pas juste un degré de sainteté, il a envie de parler à chacun. Dieu l'a toujours fait, la Bible, elle regorge de plein d'exemples. D'ailleurs, ces personnes qui ont amené un changement dans l'histoire, on le voit dans la Bible, c'est des gens qui ont entendu Dieu leur parler. Je vais juste en citer quelques-unes. Je ne vais pas tout faire ce matin, on a envie d'aller plus loin, mais c'est des gens qui ont entendu Dieu et qui ont mis en action ce que Dieu leur a dit. Lorsque, par exemple, l'homme a commencé à commettre du mal sur la terre, que l'être humain s'est vraiment éloigné de lui, Dieu a décidé d'en finir avec l'être humain. Tellement c'était terrible. Mais il y avait un homme intègre, un qui marchait avec Dieu. Et surtout, il y en avait un qui entendait Dieu. On le voit dans Genèse 6. Et si nous existons aujourd'hui et puis qu'on est ici et qu'on est bien vivant, c'est parce qu'il s'est trouvé un gars qui savait entendre Dieu quand il parlait. Et cet homme qui s'appelle Noé, Dieu a parlé et il a entendu Dieu lui parler. Et même ce que Dieu lui disait n'avait pas tellement de sens, il n'y avait aucune logique. Construire un bateau au sommet d'une montagne alors qu'il n'y avait aucune rumeur de pluie dans les airs, ça montre que Noé a bien entendu Dieu. Et qu'il connaissait sa voie pour le faire, pour agir. Sinon, il n'aurait pas construit une arche de plus de 150 mètres de long. Et on estime qu'il lui a fallu entre 80 et moins de 100 ans pour la construire. Donc ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Donc il faut savoir entendre Dieu, et puis être sûr que c'est lui qui a parlé, parce que vous avez le temps de vous décourager. Hein. Ça ne s'est pas fait en 3 jours. Tu as le temps de remettre en doute, est-ce que tu as vraiment entendu, devant tous les obstacles qu'ils ont dû avoir. Et Noé a entendu la voix de Dieu, ça a changé le cours de l'histoire. Plus loin, pour susciter un peuple, lui donner un pays, Dieu parle à Abraham dans Genèse 12, il lui donne des instructions très précises, il lui communique des promesses qui sont encore pour nous aujourd'hui valables. Plus tard, pour sauver le peuple, ce peuple-là de l'esclavage, établir une première alliance avec l'humanité, Dieu va se révéler à Moïse. Il y aura une manifestation surnaturelle, un buisson en feu qui ne se consume pas, puis Dieu va parler au travers de ce buisson, de cette présence de Dieu. Dieu va parler abondamment à Moïse. Et comme je vous avais parlé dans un précédent message cette année, moi j'ai été époustouflé de voir comment Dieu et Moïse dialoguent et la manière précise dont Dieu parle à Moïse en lui disant « Tu diras ceci et cela à Pharaon et tu lui diras que dans 3 jours la pluie, etc. » Et il lui donne des instructions, il lui dicte des choses et Moïse entend clairement Dieu lui parler. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans Deutéronome 34, 10, « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Moïse a changé l'histoire en écoutant Dieu. Et c'est là qu'on arrive à ce qui est intéressant pour nous aussi aujourd'hui, c'est que Moïse, il est mis qu'il était, c'était pas juste un bon auditeur, et puis le meilleur pour entendre Dieu. Mais le mot utilisé, c'est prophète, qui vient de Nabi en hébreu. Ça signifie une personne qui parle, qui interprète la pensée de Dieu, puis également qui a reçu une inspiration et qui parle. Parce qu'on a vu que Dieu agit en parlant. Alors il cherche des gens qui font la même chose, des gens prophétiques, c'est-à-dire des gens qui entendent et qui parlent, qui entendent Dieu et qui le communiquent plus loin. Dieu fait bouger les choses de cette manière-là, en parlant. Alors il le fait au ciel et il veut le faire sur la terre par des hommes et des femmes qui l'entendent puis qui communiquent plus loin son message et ses pensées, c'est-à-dire qui entendent et puis qui disent ce qu'ils ont entendu. D'ailleurs, on voit que Dieu a continué d'agir ainsi par des prophètes dans l'Ancien Testament et la Bible. D'ailleurs, il y a des livres entiers de la Bible, que c'est juste des livres de prophètes, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres. Et puis, il y en a dans le Nouveau Testament. Et pour clore ce premier point que je vous parle ce matin, que Dieu agit et parle par la parole, qu'il agit par la parole, c'est la venue de Jésus. Bien sûr, Jésus, c'est un agneau parfait qui est venu porter tous nos péchés. Mais Jean 1, 14 nous dit qu'il est la parole faite chair. Il est la parole de Dieu, c'est-à-dire il est ce que Dieu dit de façon humaine, incarné sur la terre. D'ailleurs, Jésus parle fréquemment des enseignements puis de la volonté du Père, tout en étant pleinement Dieu et pleinement homme, ce Fils de Dieu qui est venu mourir pour nous. En fait, il était pleinement un prophète. Or, il n'était pas que prophète, comme peut-être certains le disent, il était pleinement, c'est vraiment le Fils de Dieu, mais il était pleinement prophète qui ne disait et qui ne faisait que ce qu'il entendait le Père dire et ce que le Père faisait. Donc, il avait une sacrée écoute, du coup, de ce que Dieu disait dans le ciel, et de l'autorité aussi qui était puissante. ça suit, forcément. Si ce qu'il dit, c'est ce qu'il a entendu du Père, ça va avoir un impact. Il y avait la même puissance que la parole qui a créé le monde. Et c'est cette même puissance qu'on peut avoir quand on entend le Père parler et qu'on prononce ces mots ici. Ça fait bouger les choses. Et dire sur la terre ce qu'on entend du ciel, c'est ce qui permet de faire venir le ciel sur la terre. Dire sur la terre ce qu'on entend du ciel, c'est ce qui permet de faire venir le ciel sur la terre. Et quand je dis faire venir le ciel sur la terre, c'est toutes ces promesses, c'est toutes les valeurs du royaume de Dieu, c'est sa paix, c'est sa vie, c'est sa guérison, c'est son salut, c'est sa libération, c'est l'amour de Dieu, c'est le salut, c'est ces choses-là qui sont magnifiques que Dieu désire communiquer sur la terre. Et ça, c'était mon premier point ce matin, c'est Dieu parle pour agir. Pas juste parce qu'il aime bien converser, mais parce qu'il est comme ça. Dieu parle et il nous a créés de la même façon pour parler. Mais Dieu parle pour agir. Il pourrait faire les choses simplement comme ça, mais en général, il parle et les choses se produisent. Et mon deuxième point ce matin, c'est comment il parle et comment reconnaître sa voix. Alors, c'est vrai qu'on a tous été créés à son image, mais Dieu merci, on est tous différents. Certains, ils sont plus auditifs, d'autres sont plus visuels, et Dieu nous rejoint aussi dans notre perception pour nous parler. En plus, Dieu est créatif, donc il ne fait pas toujours pareil. D'ailleurs, Job 33, 14 nous dit « En effet, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est varié. » Et on voit que Dieu peut nous parler de différentes façons. Par exemple, d'une voix audible, directe. Alors, lorsque Dieu parle à Moïse depuis le buisson, c'est carrément une voix physique qui est sortie de cet arbre. Et ensuite, quand Dieu donne les 10 commandements, c'est puissant, c'est une voix qui vient, on le voit dans Exode 20. Lorsque Jésus, par exemple, aussi se fait baptiser, il y a une voix qui vient du ciel. Tout le monde l'entend. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Paul est touché sur le chemin de Damas, il y a une voix audible qui dit « Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Il y a une voix qui se fait entendre, etc. Il y en a d'autres. Et pour être honnête, moi, ça m'est encore jamais arrivé d'entendre de façon audible, donc j'allais dire physique, comme vous entendez ce micro, la voix de Dieu de cette façon-là, sonore, hein, mais par plein d'autres moyens que je vais énumérer après. Mais c'est une expérience forte que j'aimerais d'ailleurs bien vivre. Mais par contre, on le voit, quand Dieu parle de cette façon, c'est en général pas pour des petites choses. C'est toujours pour des choses vraiment hyper importantes qui changent l'histoire, mais aussi notre propre vie. Donc si Dieu nous parle de cette façon-là, ça va avoir un impact. Et si Dieu peut nous parler de façon exceptionnelle et extravagante, comme on le voit dans le livre de Daniel 5, où Dieu écrit carrément avec une main, il y a juste une main qui vient écrire contre le mur, lors d'une fête qui était organisée par le roi Belshazzar. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé très souvent, en tout cas, ce genre de choses. Peut-être vous, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, il utilise nos sens et qui on est pour nous parler. L'ouïe, la vue, le toucher, nos pensées. Et il va utiliser le monde de nos pensées pour y mettre les siennes et puis nous parler intérieurement. Un mot, quelques mots, un bout de phrase, un dialogue. Et c'est ainsi qu'il nous parle, je pense, le plus fréquemment, en tout cas personnellement, c'est comme ça, qu'il agit pour qu'on parle aussi plus. Et il parle simplement dans nos pensées. On le verra après, plus tard, un petit peu avec le don de prophétie notamment. Et je crois que la plupart du temps, Dieu nous parle par une petite voix intérieure. Parce que Dieu, il n'est pas juste au ciel lointain, comme on a vu, mais il habite en nous. On est le temple du Saint-Esprit et il est là. Donc il n'y a pas besoin des fois de le chercher très très loin. Il est juste en toi. Et il a juste envie de te murmurer et de te dire ce qu'il pense, ce qu'il a envie de faire. Donc il nous parle et il utilise vraiment ce canal-là d'une voix intérieure. Dieu communique aussi parfois par des visions, des images. Par exemple, Ézéchiel, il a eu de nombreuses visions de la part de Dieu. Et c'est peut-être une vision physique, où on voit carrément quelque chose comme ça physiquement, mais la plupart du temps, il l'utilise comme une vision dans notre esprit. Et Dieu me parle souvent par ce moyen-là. Et pour les visions, il utilise un lieu en nous où il peut comme projeter une image. Alors, toi, si tu as envie d'envoyer une image ou une photo à quelqu'un, peut-être tu prends une photo, tu envoies ton smartphone, et puis la personne, elle reçoit l'image comme ça. Il faudrait que je refile mon numéro au Seigneur, parce que je n'ai jamais reçu d'image de cette façon-là. Mais Dieu va utiliser le lieu de l'image en nous, notre image, inaction, pour faire un jeu de mots, c'est le lieu où on visualise les choses et c'est là qu'il va venir comme projeter en nous les images qu'il veut nous donner. Là, on projette avec un beamer ces images-là, mais en nous, il peut projeter aussi. Et on a, en nous, on a déjà un petit beamer, et puis on a déjà un écran où on a des choses qui s'affichent. J'aime bien toujours prendre cet exemple. Si maintenant tu fermes les yeux, on ne va pas forcément le faire, hein, mais si maintenant tu fermes les yeux et puis que tu t'imagines ton salon chez toi, puis ton canapé, puis peut-être le journal que tu as oublié sur la table du salon, tu t'arrives à voir ton salon. Si tu fermes tes yeux, tu arrives à imaginer, c'est comme une image mentale à l'intérieur de toi. Mais Dieu utilise cet endroit-là en toi pour projeter ses propres images que lui veut te donner. C'est-à-dire comme des fois juste une image ou même un film, une vidéo, pour dire une chose par exemple énorme dans l'humanité, c'est-à-dire étendre le plan du salut non seulement aux Juifs mais à la planète entière. Dieu a utilisé ce moyen-là pour parler. Il va parler par une vision, on le voit dans Actes 10, verset 9. Pierre, il monte sur la terrasse de la maison pour prier en attendant que le repas se fasse. Il a dit qu'il avait faim. Et Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il a une vision. Il est mis que le ciel est ouvert et un objet qui descend du ciel. Alors, Dieu lui parle alors qu'il est sur sa terrasse. C'est pour ça que je voulais une terrasse. Non. Des traductions disent même que Pierre, il était en extase. Et il est là dans la présence de Dieu. Il prie. Et je pense que la plupart du temps, Dieu, bien sûr, il peut nous parler quand on conduit, quand on fait nos achats dans un supermarché, mais sans crier garde. Mais la plupart du temps aussi, Dieu nous parle quand on prie, quand on s'ouvre à lui, quand on fait taire peut-être toutes nos occupations. Et là, Pierre, en train de prier, il est là et Dieu lui donne une vision, une image. Et tout à coup, il voit une image avec plein d'animaux purs et impurs. Et Dieu lui dit qu'il peut en manger, puis il lui dit « mais non, c'est impur ». Enfin, Dieu essaye d'élargir sa façon de voir. Et dans ce qu'il vit, il y a la totale, en plus de la vision, en plus d'une vision qu'il a, Dieu, il entend aussi Dieu lui parler, puis qui lui dit « mais ce que Dieu a rendu pur, ne dit pas que c'est interdit ». Et Dieu essaye de l'élargir pour que le salut touche pas seulement un peuple, mais le monde entier. Et c'est là que je dis qu'il y a la totale, parce qu'il y a encore une coïncidence à ce moment-là qui se passe, c'est qu'à ce même moment, des gens arrivent pour le chercher, pour qu'il aille vers un non-juif, pour l'amener au Seigneur. Alors Dieu l'avait préparé par cette vision, par cette voie, mais là, il y a une coïncidence. Et c'est là qu'on arrive aussi par une façon dont Dieu nous parle souvent, il nous parle aussi par des coïncidences. Et j'appelle ça les coïncidences divines, ou comme on le dit des fois, des hasards avec un grand D, où tout à coup, il y a des choses qui se passent, et ce n'est pas juste du hasard, c'est que Dieu a guidé les choses de cette façon-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui donne une image, qu'il entende voix, puis qu'à ce moment-là, il vienne justement, j'allais dire, toquer à sa porte pour qu'il aille vers quelqu'un qui a besoin du Seigneur, mais qui n'est pas juif. Et Dieu avait juste élargi son cœur. Et combien de fois ça m'est arrivé, je vous racontais une fois, comme par hasard, et quand je dis, pour moi, il n'y a pas de hasard. Avec ma femme, on va se promener au bord du lac et on tombe juste sur un homme qui s'était rendu au même endroit, il n'y avait que nous à cet endroit-là, et puis qui s'était dit, je vais encore une fois aller à cet endroit-là. Et il a crié à Dieu, il n'en pouvait plus, il était au bout du bout du bout. Il a dit, mais Seigneur, il faut que tu me parles. Si tu existes, il faut que tu me parles. Et voilà que nous, on arrive là. On s'est quand même baigné et on est entré en conversation avec cet inconnu. Et là, on a parlé environ trois quarts d'heure, je crois. On l'a encouragé, on a pu prier ensemble. Ça a marqué sa vie et moi, ça a marqué la mienne aussi de réaliser qu'en fait, je n'ai pas entendu une voix qui me disait « David, descends au bord du lac. Voici un homme se tient et attend que tu lui parles. » Puis des fois, on imagine Dieu comme ça, où on lit la Bible de cette façon. Des fois, Dieu pourrait me dire une impression, « Ah tiens, il faudrait aller quelque part. » Alors oui, Dieu peut le faire. Mais là, c'était comme par hasard. Et on s'est retrouvés là, et c'est un rendez-vous divin pour cette personne. Il criait à Dieu, peut-être la dernière fois, avant peut-être de passer à l'acte ou autre. Il n'en pouvait plus. Et puis, j'ai dit, ben, Dieu a répondu, peut-être pas d'un nuage, mais parce qu'on est là. J'ai encore son contact aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Et là, je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu parle aussi par des rêves. Si c'est votre cas, c'est que vous êtes plus si jeune que ça. Non, je rigole. Parce qu'il y a un passage qui dit que les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Mais de ce même passage dit qu'il répand son esprit sur chacun. Donc voilà, on peut tous... Mais on voit dans la Bible que Dieu parle par exemple à Jacob qui a eu un rêve avec une échelle et des anges qui montent, qui descendent. Et c'était un rêve. Et au jeune Joseph aussi, il a eu des rêves dans Genèse 37. Puis il en a parlé un peu à tous ses frères d'une façon un peu immature. On voit que lui-même, Joseph et Daniel, ils interprètent aussi des rêves que d'autres ont faits. Et c'était une façon dont Dieu parlait. Et pour des messages importantissimes, comme pour sauver la vie de Jésus, Jésus qui était encore un nourrisson, ben Dieu, Dieu pour sauver sa vie alors que tous les nouveau-nés allaient être mis à mort, Dieu parle à son père Joseph par un rêve et lui dit mais fuis en Égypte. Et pour sauver la vie de Jésus, Dieu parle par un rêve. Ça aurait pu être une voix audible. Non, il parle de cette façon-là. Dans Acte 16, il est mis que Paul a une vision durant la nuit. Alors des fois, c'est un mélange. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une vision? Quand on est à moitié endormi, finalement, ce n'est pas important de savoir. Ce qui compte, c'est que Dieu a parlé. Et là, Dieu lui montre à Paul un homme en Macédoine qui appelle à l'aide. Il voit un homme en Macédoine qui appelle à l'aide et du coup, Paul va en Macédoine et il rencontre cet homme pour l'amener au salut. Et personnellement, moi, je réalise ça, peut-être vous aussi, des fois la nuit ou tôt le matin ou des fois quand on est entre deux eaux, comme on dit, on a une faculté des fois spirituelle qui est comme plus grande. Des fois, on perçoit des choses, on est à moitié réveillé, à moitié endormi. Et moi, des fois, en priant ou autre, des fois, j'ai comme des réponses à ces moments-là. Alors, je note vite des fois les choses, une direction pour l'Église, pour ma vie, pour quelqu'un. Et des fois, il y a comme une perception. Dieu peut nous parler pendant la nuit, soit par une vision, par un rêve. Alors, personnellement, moi, je fais quasi jamais de rêve. C'est normal, je suis jeune encore. Non. Mais juste quand même un témoignage, il faut toujours une exception qui confirme la règle, hein, mais sans un témoignage quand même pour moi qui était fou, sans entrer dans les détails, je fais un rêve une nuit, je ne me souviens plus si je l'ai déjà une fois raconté ici, mais en tout cas pas dans les détails, mais tellement interpellant que je savais, déjà je me souviens en général jamais de mes rêves, mais je savais que Dieu m'avait parlé. Et aussi par rapport à ce qu'on vivait à ce moment-là. Et dans ce rêve, je suis dans une voiture et on tombe en panne. Je tombe en panne en quittant l'endroit où j'exerçais le ministère à l'époque et personne ne venait m'aider. Et j'étais assis dans ma voiture, mais sur le bord de l'autoroute. Et c'était tellement fort que j'ai raconté le matin à toute la famille au petit déjeuner ce rêve. Déjà que j'en fais jamais normalement, même des humains, je ne parle pas juste des rêves spirituels, que je l'ai raconté. Et en connaissant un peu l'interprétation des rêves, souvent les véhicules, ça parle un peu du ministère. Et voilà qu'on part à un culte en famille, dans un endroit où on n'était jamais allé. Et quelqu'un qui ne nous connaît absolument pas, ensuite on a eu un temps, on a prié ensemble, il me donne la suite du rêve. Il dit, je vous vois dans une voiture où vous étiez à l'étroit, où vous ne pouviez plus rouler de votre plein potentiel. Et je vous en donne une nouvelle, moins sophistiquée, mais plus puissante. Et puis c'était invraisemblable. Moi qui ne fais déjà jamais de rêve, je fais un rêve la nuit. Et il manquait encore certains éléments de réponse. Et quelqu'un donne une parole prophétique, 2, 3, 4 heures juste après. Waouh ! Dieu parle par des rêves. Et contre toute attente, même si j'espère et j'essaye de rester jeune, j'ai fait un rêve cette nuit. Et je suis convaincu que ce n'est pas non plus un hasard, et je vais le partager. J'espère que je ne vais pas... Non, c'est un encouragement, donc ça ne va mettre personne mal à l'aise. On était chez vous, Sylviane et Claude. Je ne sais pas où vous êtes dans la salle, vous êtes là. Pourtant, je ne suis pas venu chez vous. On prenait l'apéro et vous serviez du lait. Et c'était surprenant. Il y a même quelqu'un qui est venu nous rejoindre et qui a dit, mais j'aimerais un peu de lait. Et puis, bon, ça, c'est peut-être... Il n'y a pas toujours tout qui est forcément exact dans un rêve, mais on était comme sur une mezzanine. Puis je voyais, la table était déjà prête pour le dîner. Mais là, c'était ce moment-là. Et ce matin, en me réveillant, en me souvenant de ce rêve, déjà que je m'en souviens jamais, qui est déjà une chose rare pour moi, j'ai vraiment eu cette pensée que Dieu désirait, et c'est pour ça que je le fais vu qu'on parle de ça, vous dire qu'il veut vous utiliser pour transmettre aussi du lait, comme la Bible parle de petit lait, de lait, le lait de sa parole, à des personnes nouvelles dans la foi. Et je suis convaincu que Dieu va vous utiliser chez vous aussi pour nourrir des personnes de sa parole et de votre expérience de vie. Dieu vous utilise, le meilleur est encore devant pour vous. Amen. Dieu parle par des rêves, des paroles prophétiques, des visions, des images. Dieu parle par plein de moyens. Il parle aussi par des anges. Dieu parle par des anges. Moi, j'aimerais bien le vivre, donc physiquement, même si j'ai déjà vécu pas mal d'expériences angéliques, mais plutôt dans l'esprit, où je voyais qu'ils étaient là, où j'entendais, où je vivais des choses, où j'étais carrément touché physiquement. Enfin, ce n'est pas aujourd'hui mon propos. Mais par exemple, à Marie, il parle par un ange qui voit physiquement. Il y a plein d'exemples dans la Bible où les anges viennent, mais comme des êtres humains, physiques. Il parle par des anges. Mais il parle par plein de moyens divers. Il parle par des signes et des prodiges qui sont interpellants. Il a parlé comme ça au Pharaon. Dieu utilise aussi des impressions. Des fois, on a une impression. Ce n'est pas une petite voix, ce n'est pas une image, c'est une impression. Et ça, souvent, ça, c'est lié aussi au don de discernement, le don du discernement où on sent les choses. Ah non, non, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. On a l'impression, et Dieu nous parle de cette façon-là. Je dirais aussi des atmosphères. Des atmosphères. Et ça, c'est, je découvre ça plus récemment. Récemment, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Il y a quelque temps, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai ressenti spirituellement comme une oppression, comme un combat. Alors forcément, en implantant une nouvelle église, puis en désirant vivre des choses toujours plus fortes avec Dieu, en désirant aller de l'avant, c'est pas rare de vivre ces moments-là d'oppression et des fois de combat où il faut prendre autorité au nom de Jésus. C'est pas inhabituel. Mais j'ai prié et j'ai senti comme un esprit de mort qui était là. J'ai pensé à, vraiment, j'avais ce mot suicide, un esprit de suicide. Alors, ce n'était pas moi qui était tenté par ça, je vous rassure, mais je le sentais dans l'air. Puis voilà, puis après, la nuit s'est poursuivie. Mais voilà que le lendemain matin, mais vraiment très tôt, je suis abonné à des petites notifications pour les problèmes sur la route. Et puis, normalement, ça ne se met pas à cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui met... le message a vite été enlevé, que malheureusement quelqu'un s'était donné la mort, enfin s'était suicidé au creux du vent. Et puis, en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que bon, on peut y aller par le Val de Travers, mais là où nous on habite, c'est la route qui va au creux du vent. Et c'est une terrible nouvelle, mais moi j'ai pensé, d'abord en ressentant ça dans l'air, je me suis dit, mais la personne, vu que c'est arrivé tôt le matin, peut-être qu'elle passait en voiture, elle a passé à 50 mètres de ma maison en voiture, elle y allait. Et je ressens à ce moment-là de la nuit un esprit de suicide et une personne se suicide plus tard. Dieu peut nous parler par des atmosphères. Et là, je me dis, ben, je réalise, Seigneur, j'ai envie, en sentant certaines choses, de rentrer dans l'intercession et d'intercéder et de sentir ces choses. J'avais lu une fois le témoignage de quelqu'un qui avait vécu la même chose dans une station-service où il sentait ça, pourtant il avait... Et puis en fait, après, il est entré en contact avec l'autre personne qui prenait de l'essence. Et c'est exactement ça. Et des fois, ce n'est pas toujours nos propres sentiments. Mais Dieu parle par ce qu'il y a dans l'air. Par ce qu'il y a dans l'air. Je ne sais pas, tout à coup, vous pouvez avoir un découragement subi. Ce n'est pas que tout à coup, vous êtes fatigué. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans la pièce où vous êtes qui vit un découragement intense. Et Dieu désire vous parler pour que vous puissiez lui amener un encouragement. Ou tout à coup, il y a peut-être de l'impureté à couper au couteau qui tombe de nulle part. Ce n'est peut-être pas juste vous. Il y a peut-être quelqu'un dans la pièce et Dieu veut vous amener à amener la libération, à amener la vie. Ou tout à coup, il y a une colère qui vient. On sent dans l'atmosphère des fois des choses. D'ailleurs, même physiquement, il y a pas, si on est sensible aux choses, même humaines, on sent des fois même de la tension dans l'air. C'est une expression. Il y a ça, on peut le sentir. Il y a des atmosphères. Et ce n'est pas toujours nos propres sentiments. Il peut y avoir quelque chose dans la pièce. Aussi, et Dieu veut utiliser aussi ça, si tout à coup tu sens quelque chose, c'est peut-être pas que tout à coup toi tu es en colère, mais peut-être que Dieu veut toucher quelqu'un et le libérer de la colère. Et je crois que ce matin aussi, je pensais que ce n'était pas par hasard que je parlais de cet exemple de suicide, et je vais vraiment maintenant prendre autorité au nom de Jésus contre tout esprit de suicide. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui est comme persécuté ou pressé par ça, qui est comme à bout, et des fois la solution qui se dessine dans ta vie, c'est ça. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus contre tout esprit de mort et de suicide et sois libéré de ça maintenant au nom de Jésus par la puissance de vie et l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et je pense que c'est tant pour les personnes ici dans cette salle que ceux qui vont écouter ce message en différé sur le site. Et dans le même ordre d'idées, que l'impression, par l'atmosphère spirituelle, Dieu peut nous parler aussi par des paroles de connaissance. Par exemple, au niveau de la guérison, on peut ressentir quelque chose dans le corps, où tout à coup on se dit, ah ben, j'ai mal vers la jambe droite ou le genou droit, de façon subie. Ce n'est pas que tout à coup vous avez une douleur qui vient, mais Dieu peut vous parler et dire, il y a peut-être quelqu'un ici dans cette salle qui a un problème au genou droit, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Peut-être que ce n'est pas un hasard et que ça se passe maintenant. Mais Dieu peut nous parler de cette façon-là. J'ai expérimenté aussi plusieurs fois. Et Dieu parle de différentes manières. Il parle évidemment par la parole de Dieu. Il parle par la Bible. Hein. C'est un message en soi d'ailleurs. Mais c'est évidemment le premier moyen qu'il nous a laissé. Il parle par sa parole, mais justement aussi par son esprit. Parce qu'autrement, on peut vite tomber dans le légalisme. Il y a même 2 Corinthiens 3:6 qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais quand on met une recette et qu'on prend la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, ça c'est puissant. Sans le souffle vivifiant du Saint-Esprit, la parole peut amener la loi, peut nous enfermer, peut nous éloigner d'une relation vivante avec Dieu. Pas seulement pour les pharisiens de l'époque, mais aujourd'hui aussi. Il y a une telle puissance et une efficacité dans la parole de Dieu, avec une dimension de l'esprit quand on la proclame. La Bible dit même que c'est plus efficace qu'une épée qui irait jusqu'à toucher, jusqu'au plus profond du cœur, pour toucher et amener, et séparer les choses, ce qui est mauvais et bon, dans Hébreux 4, 12. Et la Bible, justement, nous parle que Dieu nous parle et que nous avons à le transmettre. Et on va voir ça un peu de plus près aussi maintenant, parce que je vais bientôt terminer. Mais c'est mon troisième et dernier point qui dit nous pouvons tous, non seulement entendre Dieu, réaliser comment il parle, mais on peut tous prophétiser. On peut tous prophétiser, c'est-à-dire proclamer plus loin ce qu'on entend. Et on a vu que pour agir, Dieu a choisi de parler, pas juste de claquer des doigts. Il a choisi de parler pour que les choses se passent. Et dans le psaume 33, verset 9, il est dit « Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Dieu reste le même aujourd'hui et continue d'agir ainsi. Et comme on l'a vu dans mon récent message où je parlais, le titre c'était « Ensemble » d'une façon générale, que Dieu avait un projet au niveau de l'Église avec un grand E, Dieu aujourd'hui a choisi d'agir au travers de l'Église et de son corps pour toucher le monde entier. Et depuis 2000 ans, il le fait ainsi, c'est son corps qu'elle a sur la terre, et du coup, il va agir et toucher le monde, pas juste par une main contre un mur ou une voix qui vient des nuages, mais au travers de ta bouche et de ma bouche, c'est-à-dire de l'Église, toi et moi, pour toucher ceux qui ne connaissent pas, puis aussi pour nous encourager les uns les autres, pour les deux choses, à l'intérieur, mais aussi pour toucher ceux qui ne connaissent pas. Et 1 Corinthiens 14, 1 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Ce n'est pas juste, voilà, parce qu'il y en a certains qui aiment ça. Non, Paul insiste, il dit « Recherchez l'amour », et on sait que tellement c'est important, sans ça... C'est ce qui est le plus important. Mais aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Et le mot prophétie, qui vient de prophétas, veut dire déclarer, pousser par l'Esprit de Dieu, déclarer en ayant reçu par inspiration, dont la racine phémi, qui veut dire du grec, faire connaître, déclarer, dire. Et la suite du passage explique, en effet, celui qui parle en langue, donc dans l'esprit, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, les encourage et les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Et on voit le premier but de la prophétie et en quoi elle est une bénédiction, c'est pour édifier, c'est-à-dire c'est pour construire, c'est pour encourager, c'est pour réconforter. C'est une parole d'encouragement de la part du Seigneur. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est même dit « La prophétie, c'est le témoignage de Jésus. C'est ce qu'amène Jésus. » Et la Bible compare d'ailleurs la prophétie à une lampe qui éclaire la nuit, à laquelle on ferait bien de prêter attention. C'est les mots de 2 Pierre 1,19. Et on comprend mieux pourquoi Paul encourage qu'on prophétise. Parce que c'est tellement positif. Ça bâtit intérieurement, ça encourage, comme on dirait, ça booste. Et on a vu que Dieu agit en disant les choses pour qu'elles arrivent. Donc en étant inspiré des paroles du Seigneur, des bénédictions qu'il a pour les uns les autres, des paroles d'encouragement et de bénédiction ou d'amour ou de salut pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme ça que Dieu va agir, pour édifier, pour consoler, pour encourager. Alors, je ne vais pas faire un enseignement ce matin entier sur la prophétie, mais c'est pour ça que Dieu, non seulement lui parle, mais il désire qu'on puisse parler en son nom. Alors il y a aussi le ministère prophétique, ça c'est encore presque autre chose, un prophète, c'est carrément lui qui est le don de Dieu pour le corps. C'est lui qui est le message et la prophétie habite en lui. En plus de l'encouragement, il va même aller des fois dans des prédictions pour le futur ou des directions, comme « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas ». Alors c'est un outil qui est vraiment puissant et tout outil puissant. Ben, il faut savoir l'utiliser. On a acheté récemment un taille-hé, ben, il faut savoir l'utiliser, quoi. Sinon, je viendrai comme ça ici. Hein. J'aime beaucoup l'image de la rivière. Pas seulement pour la prophétie, mais pour beaucoup de choses. Pour l'onction de Dieu, pour la guérison, pour la délivrance, pour les différents dons du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ? Une rivière, c'est une bénédiction. Elle arrose, elle amène la vie, elle permet de croître, à tous les arbres qui l'entourent. L'eau qui coule, c'est vivifiant, elle est rafraîchissante, ça nourrit, ça abreuve, c'est que bien, c'est magnifique, une rivière. Mais une rivière est une bénédiction, elle est même une grande bénédiction, tant qu'elle reste dans son lit. Lorsqu'une rivière déborde, la même rivière, la même eau, elle fait des dégâts. Cette eau qui peut abreuver, qui peut arroser, qui peut rafraîchir, quand elle sort de son cadre, de son lit, ou cette onction, ou même ces bonnes choses qui sont que bonnes si on les analyse, si on prend l'eau, si ça débordait partout, et j'ai pas mis une photo de ça, mais ça arrivait il y a pas longtemps à Berne, là, où ça avait comment. S'ils avaient analysé l'eau, c'était la même eau qui est une bénédiction. Mais quand ça sort de son lit, de son cadre, ça peut faire des dégâts. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Paul, qui encourage tellement à prophétiser, il a dû recadrer aussi à Corinthe. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un outil. Quand un outil, comme une épée, est efficace, il faut savoir l'utiliser. Et le cadre du don prophétique, les limites, ce n'est pas enfermante, mais ça empêche des dégâts. Et même si là, je vais ressortir de juste deux, trois éléments, que je me base sur des enseignements communs de prophètes que j'ai côtoyés, mais j'en suis absolument convaincu aussi personnellement, ça évite tellement de problèmes et de dégâts. Notamment, le cadre de la prophétie, c'est de ne pas apporter de jugement. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on va commencer à amener des jugements sur les gens. Mais aussi, moi, je pense qu'aucune direction. Des directions, là, c'est là qu'il y a des dégâts qui se font, c'est quand on, vu qu'on n'est jamais sûr, vraiment, forcément, à 100% de ce qu'on communique, de dire à quelqu'un, mais tu, ouais, moi, je sens qu'il faut que tu vendes ta maison parce que Dieu t'appelle à aller à un endroit, ou vends ta voiture parce que ceci, ou bien tu, dans l'année, tu vas trouver un conjoint. Ce genre de choses où on fait des prédictions qui peuvent avoir des impacts, où tu vas avoir un enfant. Enfin, il y a des fois tellement de choses, c'est là qu'on commence à rentrer des fois dans des choses délicates. La prophétie, elle est pour encourager, elle est pour édifier. Ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas non plus quelque chose de lourd à porter. « Ah, je te vois faire un accident. » Et puis après, ben, peut-être que tu l'as vu, mais si tu l'as vu, ben, c'est pour que tu intercèdes, pour que ça n'arrive pas. Ce n'est pas pour le dire à la personne, c'est pour que tu intercèdes juste ça, que tu aies la paix, que ça n'arrive pas. Et si vraiment un jour, tu reçois quelque chose qui sort du cadre, ça peut arriver, de l'encouragement ou de l'édification, quelque chose qui serait un peu plus directif ou peut-être un peu plus prédictif, ou que tu as ce ministère-là, et puis qui a un impact dans la vie de quelqu'un, ben, ça peut arriver. Ben, cherche un témoin, un responsable qui est là, qui entend, qui va aider peut-être la personne à gérer ça, quelqu'un qui est témoin. Ça évite tellement des fois des bêtises. Quelqu'un, par exemple, qui pourra arrêter ses études parce qu'on lui dit qu'il a appelé dans le ministère tout de suite. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent aussi arriver. Alors, je ne suis pas en train de mettre un bémol. Dieu parle. Il y a une telle bénédiction. L'eau de la rivière est magnifique et fantastique quand on fonctionne vraiment selon... On utilise l'outil de la bonne façon. Et moi, si quelqu'un me donne une prophétie comme quoi Dieu m'appelle à partir en Antarctique... Ben, je vais dire merci, c'est super. Mais je vais mettre ça, je ne vais pas dire que ce n'est pas de Dieu, je vais mettre ça, comme on utilise cette expression, sur l'étagère, chez moi. Et puis on verra bien si ça se passe. C'est que c'était juste. Ce n'est pas pour autant que je vais prendre un billet d'avion et y aller. Par contre, si je reçois une prophétie pour aller à Hawaï, ça, je ne sais pas, non. Tout à coup, là, le don de discernement change, non. Non, non. C'est pour dire qu'une prophétie, ce n'est pas un ordre. Souvent, ça confirme quand même quelque chose qu'on ressent déjà personnellement. Il ne faut pas commencer parce que quelqu'un vous dit « Ah, moi, j'ai reçu de Dieu ceci, qu'il faut commencer à faire quelque chose. » La personne qui te parle en premier, ton ami, c'est le Seigneur. Et puis ensuite, il peut confirmer ça par un frère, une sœur, quelqu'un d'autre. La Bible nous dit d'examiner la prophétie et de garder ce qui est bon. On ne garde pas tout. Ce n'est pas grave si on ne garde pas tout. Ce n'est pas dire que tout est à jeter. Mais on garde ce qui est bon. Et 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit. » Parce qu'on aurait une fois vu qu'il y a un petit peu, qui est pas un petit peu à côté, alors on jette tout à la poubelle. Non, n'éteignez pas l'esprit. On veut plus de prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce n'est pas tout ou rien, mais c'est examiner, retenir ce qui vient de Dieu et laisser des fois l'humain, l'émotionnel. Des fois, on est tellement touché par la personne. C'est vite fait de laisser nos émotions parler. Et j'aime bien Jean Blanc, qui était vraiment un père vraiment dans la foi pour la Suisse romande, qui a dit qu'il y a trois, quand vous recevez une prophétie de quelqu'un, il y a trois questions qu'on doit toujours se poser. Et c'est vraiment, j'ai gardé ça parce que je trouve tellement intéressant. Il dit la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que Dieu a parlé ? Ou bien qu'est-ce qui vient de Dieu dans ce qui a été dit ? De toute façon, vu que c'est une parole souvent d'encouragement, ce n'est pas grave si c'était que humain en général, si on ne dit pas quelque chose de... Bon, ouais, on s'encourage les uns les autres, je te dis, ah, tu as un beau t-shirt, c'était peut-être pas du Seigneur, mais c'est un encouragement. Voilà. Puis peut-être ça venait de Dieu parce que tu hésitais si vraiment c'était... Non. Mais des fois, on peut être vite pris. Hein. On voit quelqu'un qui est tellement découragé que tout à coup, on se laisse... De la part du Seigneur, on l'encourage. Mais Dieu peut le faire. Mais quelle est la part de Dieu ? Quelle est la part de l'humain ? Et si on peut répondre positivement parce que Dieu a parlé, mais on peut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'il a dit ? Et qu'est-ce que Dieu a vraiment dit là-dedans? Et puis enfin, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et souvent, il y a des conditions. Je t'appelle à ceci, tu verras, il y aura ça. Mais approche-toi de moi, cherche-moi. Il y a souvent, la plupart du temps, très souvent, il y a quand même des fois des conditions. Et c'est notre part à faire pour que les choses se réalisent souvent. Il y a un chemin et Dieu souvent le montre. Et moi, c'est comme, plutôt que de rejeter tout ce qui est mauvais, gardons ce qui est bon. C'est vraiment une valeur qu'on désire avoir. Et c'est comme quand on cuisine. Pour faire cuire de la sauce dans la présence de Dieu, on fait cuire ceci dans la présence de Dieu, on prie ce qu'on a reçu, et on fait évaporer un petit peu ce qui est humain pour en garder l'essence, pour en garder l'essentiel. Et là, ça a du goût. Et on ne va pas se dire, oh, il y avait un peu d'eau, c'est pas bon cette sauce-là, c'était un peu humain et émotionnel. Sinon, on ne fait plus rien. On aura tellement peur que ça soit un peu, que finalement, on ne parle plus, on ne prophétise plus, il n'y a plus de dons, on éteint l'esprit. Non, on ne veut pas éteindre l'esprit, on ne veut pas mépriser la prophétie, mais on veut faire reposer, on veut mijoter ça dans la prière, la présence de Dieu. Ça fait évaporer un peu l'eau et ça réduit la sauce qui a un goût qui est bon. Ça donne faim. C'est 11h23. Alors. Mais c'est tellement bon parce que Dieu aime parler au travers de nous pour les autres, c'est-à-dire qu'on prophétise. Et là, je vais bientôt terminer. Mais ce que je retiens, et surtout ce que je voulais vous communiquer ce matin, c'est que c'est comme ça que Dieu agit. Il parle pour agir. Il parle pour agir. Amos 3,7 nous dit, en effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu, il aime, il ne veut pas juste, il joue pas solo, puis tout à coup il fait les choses. Il en parle à ses amis, et il en parle à ses serviteurs, il en parle aux prophètes, et il désire le faire aujourd'hui dans son église, et dans son église pour s'encourager les uns les autres, mais aussi pour toucher, qu'on puisse être une voix pour le monde, autour de nous, là où on est, là où on habite, là où on travaille, dans nos relations, nos amitiés. Il ne désire pas non plus le faire juste par quelques spécialistes, où on peut acheter son livre et tout, non, il désire le faire par chacun d'entre nous. Il cherche un peuple de personnes assoiffées par lui, désireux d'être utilisés par lui davantage. Et Dieu se révèle quand on le cherche. Ésaïe 55 nous dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et il y a une démarche de notre part, ce n'est pas forcément quelque chose qui va tout à coup venir tomber sur nous comme une pluie, il faut le désirer. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a suscité Moïse comme ce prophète pour parler au peuple, à la base, il aurait voulu parler à tout le peuple directement. Mais le peuple a préféré laisser, ils avaient un peu de la crainte de Dieu, ils ont préféré laisser Moïse aller écouter Dieu à leur place. Et dans Nombre 11, 29, Moïse dit même à Josué, à un moment donné, parce qu'il y en a d'autres qui prophétisaient, Moïse dit, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux, il a été exaucé. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait. Il l'a déjà prophétisé par le prophète Joël, Joël 3, où il a dit « Je déverserai mon esprit sur tout être humain, pas juste sur des spécialistes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Et il y a eu ce démarrage à la Pentecôte. Et gloire à Dieu, dans le calendrier, on est après la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est là pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus comme une pluie inattendue, mais le passage qu'on a lu avant dans 1 Corinthiens 14:1 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Et le verset 5 nous dit, Paul nous dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » C'est un désir pour chacun, pas juste pour 10% des gens ou les gens les plus ceci ou cela. Ça doit venir aussi d'un désir de notre part, de désirer être ses porte-paroles, ses encourageurs, ses bâtisseurs, en étant inspiré par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours en disant « ainsi parle le Seigneur ». Tu peux amener une impression, tu peux amener une pensée à ton voisin, tu n'as même pas besoin de dire des fois que ça vient du Seigneur. Ou bien des fois tu dis « mais je suis chrétien, je ressens de la part de Dieu ». Puis des fois, il ne faut pas avoir peur, et quand ça touche le mille, ça, c'est juste puissant. Jérémie 29,13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est ce qu'on a pu vivre aussi avant dans la louange. Et je crois qu'il y a un appel à chercher Dieu, à revenir à lui de tout notre cœur. Et ce n'est pas juste parce qu'il nous veut encore plus, mais c'est parce qu'il désire agir encore plus. Il désire parler aux gens qui nous entourent encore plus. Et aujourd'hui, il y a une invitation. Et il désire parler abondamment. Parler abondamment. D'ailleurs, je vais bientôt terminer. Vous pouvez déjà venir au niveau du groupe louange. Et je crois qu'il y a une invitation où Dieu désire parler abondamment comme il aime le faire, et il cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles pour ça. Et le psaume 25, 14 nous dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. » et il leur fait connaître son alliance. Et il cherche des amis intimes. Il cherche et il transmet ses secrets à ceux qui le craignent. Et il y a deux semaines, Diane parlait de la sainteté de Dieu. Et à un moment donné, cette crainte de Dieu, ce n'est pas juste pour qu'on soit aseptisé, mais dans cette crainte de Dieu, en devenant toujours plus comme lui est, Dieu va toujours plus nous parler et révéler qui il est. C'est pour ça que c'est important. Et je vais terminer par ce verset. Et ça sera mon dernier mot. C'est 1 Corinthiens 14:31 où il est dit « En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. » Et c'est quelque chose que Dieu veut répandre sur chacun. Cet esprit qu'il a répandu, comme le dit le prophète Joël, sur toute chair. Il désire que chacun d'entre nous, on puisse entendre Dieu pour notre propre vie, qu'on puisse entendre Dieu pour nos frères et sœurs de la famille, qu'on puisse entendre Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas et qui sont là où nous œuvrons, vivons, travaillons, marchons, nous déplaçons. Et il désire qu'on puisse entendre Dieu. Et la phase suivante, pour ne pas être juste un auditeur, c'est qu'on puisse être ces, entre guillemets, ces prophètes, c'est-à-dire ces personnes qui communiquent plus loin la parole de Dieu. Parce qu'il agit en parlant. Et il a envie que tu l'entendes et que quand tu l'entendes, tu parles ce que tu as entendu. Pour que ce que tu as entendu, il puisse agir. Et Dieu ne va peut-être pas toucher les gens qui t'entourent simplement lui-même, même s'il peut le faire. Et il le fait des fois. Mais il a envie de le faire en te parlant et que toi, tu parles. Et c'est pour tout le monde. C'est pour toi. Il n'y a pas de degré. Il n'y a pas d'initiation. Tu n'as pas besoin d'être plus saint. Même si Dieu, on l'a, il y a 15 jours, on parlait, Dieu veut nous transformer, qu'on soit toujours plus comme lui. Mais il n'y a pas besoin d'être plus. Dieu a parlé au travers d'un âne dans la Bible. Tout le monde peut être utilisé par Dieu. Et c'est comme il désire le faire. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses répandre cet esprit de vie, un esprit prophétique qui nous touche. Et Seigneur, on désire toujours plus t'entendre. Et Seigneur, mets en nous une faim et une soif de t'entendre. Seigneur, je sais, avec, et je vais le dire avec respect, que tu es bavard. C'est-à-dire que tu parles beaucoup. Tu as envie de parler. Tu as envie de parler à mon cœur. Tu as envie d'encourager. Tu as envie de parler aux gens qui m'entourent. Tu as envie de leur dire combien tu les aimes. Tu as envie de leur dire que tu peux les délivrer. Tu as envie de leur dire que tu peux les guérir. Tu as envie de leur dire que tu comprends ce qu'ils vivent. Et Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses susciter en nous une faim et une soif de prendre du temps pour t'écouter et même de t'entendre quand on fait autre chose. Et Seigneur, que ce canal prophétique soit libéré maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, j'aimerais te dire, ensemble, en tant qu'Église Passion, on désire plus vivre le don prophétique, on désire plus entendre ta voix, on désire plus chacun là où on est, là où on agit personnellement, t'entendre, pour nos vies et pour notre prochain. Et je te prie, Seigneur, que comme ces puits dans Genèse 26 qui ont été rebouchés à un moment donné, qu'il a fallu déboucher, je prends autorité maintenant pour que tout ce qui aurait bouché ce puits prophétique de nos vies, le puits prophétique, le fait d'entendre Dieu dans ta vie, maintenant soit débouché au nom de Jésus et que tu puisses de nouveau entendre Papa te parler, que tu puisses de nouveau entendre le Saint-Esprit te parler, que tu puisses de nouveau entendre Jésus dire ce qu'il a envie de faire au travers de toi. Et au nom de Jésus, que ce canal soit libéré. Et je prie pour une audace particulière, pour que non seulement tu sois un auditeur, mais que tu puisses être un parleur, que tu puisses parler de Dieu, parler au nom de Dieu, que tu puisses prophétiser, que tu puisses encourager, que tu puisses édifier. Seigneur, viens, libère des impressions, des visions, des rêves, des songes, des voix intérieures, mais viens, parle-nous, parle à ton peuple, Seigneur, et donne-nous de communiquer ça plus loin. Qui c'est qui a envie de dire Amen? Amen, c'est ça qu'on veut, Seigneur. Et on va, je vais laisser le groupe, on va poursuivre, surfer dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on va le faire, on vit l'Église avec des cultes et aussi dans les groupes ressources. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a aussi envie. Je sais qu'on a tout un programme, on étudie les Romains dans les groupes ressources. Mais on va vous envoyer un petit message pour ceux qui sont dans un groupe, qu'on puisse aussi exercer et vivre ça prochainement. Qu'on puisse prendre un temps où on écoute le Seigneur, où on s'encourage, où on prie les uns pour les autres, où on se bénit. C'est tellement bien de s'édifier les uns les autres. Amen.